Cet été, nous avons regardé le récit biblique de la création, la création du monde selon la Bible. Et ce qui est frappant dans ce récit, c'est qu'il se déroule sur 7 jours. C'est un peu la particularité du récit biblique. Il est organisé en 7 jours. Et déjà, le simple fait que nos vies sont basées sur un cycle hebdomadaire de 7 jours, et cela vient du texte biblique, ça devrait faire en sorte que chacun s'intéresse au moins à ce récit des origines du monde. Et donc, nous avons regardé comment Dieu a créé chaque différente chose, chaque jour. C'était artistique, c'était pédagogique. Et ce matin, nous arrivons au 7e jour, le dernier jour de la création. Et je vais vous lire le récit en Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Donc le 7e jour se trouve dans Genèse chapitre 2, première page de la Bible, ou deuxième. Et vous trouvez ces 3 versets au début du chapitre 2 que je vais vous lire à présent. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, si vous étiez avec nous tout cet été, chaque orateur a pu vanter un peu la beauté et l'importance de 100 jours. Et en vrai gentleman, mon collègue me laisse le dernier mot pour vanter la beauté et l'importance du 7e jour. Mais je reconnais que chaque jour avait un point fort, chaque jour avait quelque chose impressionnant. Donc, résumant un peu les 7 jours de la création. Le premier jour, le célèbre « que la lumière soit et la lumière fut », ça c'est impressionnant. Cette puissance créatrice de la parole de Dieu qui, à partir de rien, crée toute chose. En plus, ce jour, je trouve intéressant, Dieu crée la lumière, mais c'est avant les astres, avant les ampoules. Donc, qu'est-ce qu'il a créé ce jour? Il a créé le principe même de la lumière, et encore aujourd'hui, les scientifiques et les physiciens, les astrophysiciens, beaucoup de choses dépendent de la lumière, et même les principes électromagnétiques qui régissent la lumière, et la lumière visible, mais tout le spectre de la lumière, et puis il y a les lois physiques, et c'est constante universelle. Je ne sais pas si vous étudiez la physique, je vous épargne un peu, mais la vitesse de la lumière, il y a d'autres... Il y a d'autres valeurs, c'est des numéros, c'est des chiffres, c'est des constantes que les scientifiques ont trouvées qui régissent l'univers. Si ces valeurs n'étaient pas exactement calibrées sur des valeurs très précises, rien ne marcherait. Les atomes même se tiendraient pas ensemble. Donc les scientifiques connaissent ces valeurs. Les unes sont liées aux autres, dans la vitesse de la lumière, le constante de Planck. Il y a un chiffre, c'est intéressant, c'est 1 divisé par 137, ça, ce chiffre est très important dans la science, c'est ce qui, et si ça change, c'est différent, rien ne marche. Et celui qui l'a découvert, les nazis ont voulu le liquider, en tout cas, ils l'ont exilé parce que ces valeurs constantes sentaient trop la main d'un créateur, et ça, ils voulaient pas en entendre. Donc, 1 divisé par 137, voilà, déjà. Bon, ça, c'est le premier jour. Dieu crée tout ça, la lumière, mais aussi les principes physiques, les lois physiques qui régissent la lumière. Le 2e jour, c'était impressionnant parce que la planète Terre se dessine de tout l'espace. Dieu commence à créer un lieu habitable. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un autre lieu habitable, notamment à cause de l'eau. Le 3e jour, c'était l'apparition de la vie, la première vie, avec les arbres et la verdure. Et puis le 4e jour, rien que pour les étoiles, toutes les étoiles, je trouve c'est impressionnant. Et le 5e jour, on a trouvé la première bénédiction de Dieu. On a parlé des les oiseaux et les poissons, mais eux, ils reçoivent la première bénédiction. Et c'est un grand thème de la Bible, Dieu qui bénit. Et donc cette bénédiction était la capacité de se reproduire. Et ça va être un thème biblique, la beauté de la reproduction. Donc la première bénédiction, ce 5e jour, et le 6e jour, 6e jour, bien sûr, c'était le bouquet final, le jour que Dieu a créé non seulement les animaux, mais l'être humain, la seule chose qui crée à l'image de Dieu, qui peut avoir une vraie relation avec Dieu. Et plus précisément, dans ce 6e jour, Dieu crée l'ultime cerise sur le gâteau. Dieu couronne toute sa création de cette chose si mystérieuse, si belle, si noble, qui est la femme. Les étoiles, c'était facile, mais là où il a mis tout le paquet, c'était la femme. Amen. Mais il reste un jour, le septième jour. Si Dieu garde le meilleur pour la fin, le septième jour serait le meilleur. En tout cas, c'est le seul jour qui est béni et sanctifié. Dieu bénit, verset 3, Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, aucun autre jour ne reçoit cette qualification. Et puis, dans la suite de la Bible, ce jour, bien sûr, prend une grande importance thématique, théologique, notamment à cause du mot repos. Dieu s'est reposé de toute son œuvre, c'est le mot sabbat, shabbat, et ce mot va devenir très important pour le reste, déjà le peuple juif qui reçoit les livres de Moïse en premier, et puis par la suite, nous allons étudier un peu, creuser ce thème du repos, du sabbat de Dieu. Alors ce septième jour, j'espère vous avoir montré qu'elle a une grande importance, notamment le dernier jour, et juste deux propos ce matin. Le septième jour nous montre le but de tout. C'est pour ça que c'est très important. Et deuxièmement, le septième jour devient un modèle pour nos vies. Donc, le septième jour nous montre le but de tout. Et donc, j'aurais une question pour vous. Est-ce que votre vie est alignée à ce but de tout pour lequel Dieu a tout créé? Et puis le septième jour devient un modèle. Et j'aurais encore une question. Est-ce que vous arrivez à suivre le modèle qui se dégage de Dieu lui-même dans sa semaine de création et dans ce septième jour avec le repos? Premièrement, nous allons voir que le septième jour nous montre le but de tout. Vous voyez, dans ces trois versets, le texte met l'accent sur Dieu qui achève son œuvre. Dans chaque verset, quasiment, « Ainsi furent achevés les cieux ». Verset 2. Dieu acheva au septième jour toute son œuvre. Verset 3, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc cette notion d'achèvement, il termine, il finit. Mais pour dire qu'une œuvre est achevée, il faut connaître le but. Comment un luthier sait que cette chose qui construit, que nous appelons violon, comment un luthier sait que le violon est achevé? Ben c'est quand il le joue. Et là, on découvre le but et c'est achevé quand c'est jouable. Comment un constructeur de maison sait que la maison qu'il construit est achevée? Ben quand c'est habitable et quelqu'un habite dedans. Si vous faites une terrasse, peut-être c'est ça que vous avez fait pendant vos vacances, pendant la canicule. Bonjour, mais si vous faites une terrasse, bétonnière, sac de ciment, brouette, quel est le but? Bien sûr, on peut s'émerveiller de comment la bétonnière tourne, et c'est intéressant de voir que ça tourne. La brouette, ça nous aide de porter des choses, on peut étudier. Mais quel est le but? En fait, le but, c'est pas la bétonnière, c'est pas la brouette. Le but, c'est le petit Ricard avec les amis sur la terrasse. Le petit coca sur la terrasse avec les amis. C'est ça le but. On sait que l'œuvre est achevée et à ce moment, vous prenez l'apéro avec les amis. C'est pour ça que vous avez fait une terrasse. Pas juste pour célébrer le mouvement circulaire de la bétonnière. Ou lorsqu'on part faire une randonnée en montagne pour atteindre un pic. C'est quoi le but? Ben c'est joli à la montée, on est d'accord. On se fatigue à la montée, ça fait du bien à la santé et le sport. Mais la raison qu'on fait un pic, qu'on va dans les Pyrénées pour un sommet, c'est pour atteindre le sommet, c'est pour la belle vue. Et là, on atteint le but, la raison pour laquelle on est parti faire la randonnée. Et c'est encore mieux quand on est ensemble avec d'autres pour jouir de la vue et de tous ces sommets. Eh bien, le septième jour, c'est le sommet. Le septième jour nous montre un peu pourquoi Dieu a fait, finalement, tout ce monde. Le théologien Henri Blocher le dit de cette manière, je trouve intéressant. Le récit de la création a deux cimes, l'homme et le sabbat. La création de l'homme couronne l'œuvre, mais le sabbat en est le but. Ce jour de repos en est le but. Vous voyez, Dieu a travaillé toute la semaine et ensuite il s'est reposé. Littéralement, le mot, ça veut dire il a arrêté, il a cessé son activité. vous avez compris que Dieu s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué, le Dieu Tout-Puissant ne se fatigue pas, mais il a tout arrêté parce que il a atteint son, tout était parfait, il n'y avait rien à rajouter, tout est à sa place, et il peut dire là, j'arrive au but pour lequel j'ai créé toute chose, y compris les êtres humains. Et maintenant, je vous invite à imaginer le déroulé, l'agenda de ce septième jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tout ce nouveau monde a fait ensemble? Parce qu'il y avait Dieu ce jour-là, oui, mais il y avait aussi sa création, notamment l'être humain. Et quand il dit que Dieu s'est reposé, on est d'accord qu'il n'a pas juste fait une grande sieste toute la journée. Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas. Donc Dieu est là, il est reposé, mais il est aussi disponible pour sa création. Et on a Adam et Ève, là aussi, qui est nouvellement créé, entouré de cette création toute neuve, toute parfaite. Et c'est cet état reposé, magnifique, qu'il faut imaginer le septième jour. En fait, c'est des trois meilleurs amis au monde, Adam, Ève et Dieu, au bord de la rivière, avec un repas délicieux, à parcourir ensemble le plus beau des jardins, dans un monde de lumière et de communion. C'est ça le septième jour qu'on peut se représenter, n'est-ce pas? Et donc, comme dit un commentaire très fort, le septième jour montre que le but de la création est le repos dans la communion avec Dieu. Le but de la création, c'est le repos avec Dieu, dans la communion avec Dieu. Donc Dieu est là, reposé, disponible, mais il y a aussi tout le reste qui est là aussi avec lui. D'ailleurs, l'autre endroit dans les livres de Moïse où l'idée d'achever l'œuvre revient souvent, une œuvre achevée, ils ont achevé l'œuvre, c'est quand ils ont achevé de construire ce qu'on appelle le tabernacle, cette tente dans le désert qui était en fait une maison de Dieu avec son peuple. Et cette maison d'ailleurs qui est rappelée par pas mal de symboles et de descriptions, cette maison qui rappelait le jardin d'Éden que l'homme avait perdu, cette maison rappelait la création du cosmos en sept jours. Et cette maison qui montrait le désir de Dieu d'habiter avec son peuple. Et donc quand ils ont achevé cette œuvre, là aussi Dieu est venu habiter avec son peuple. Là aussi ça rappelle le but de tout, c'est qu'on vit avec Dieu dans la paix, dans la lumière, dans le repos. Et maintenant, je peux vous poser la question. Votre vie est-elle alignée avec ce but de la création, ce but de tout, de trouver cette plénitude, ce repos en Dieu et dans une communion avec lui? Et c'est là où le récit biblique va plus loin que la science. J'aime bien la science, j'en ai cité des valeurs physiques comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, tout ça, c'est intéressant d'étudier ces choses. Mais le récit biblique peut nous dire plus qu'on dit la science. La science peut décrire le monde, mais le récit biblique peut nous donner le but. Et c'est ça qu'il nous faut pour donner un sens à nos vies. La science, par exemple, ce piano que je joue parfois, que Jean-Philippe a joué ce matin, ce piano, la science peut dire que ce piano est fait de telle matière, ou que telle note, le do du milieu, émet un son, telle fréquence, 261 Hz, 63. La science peut vous dire ça. Mais et il faut plus que la science pour dire que quel est le but de ce piano? Eh bien, le but de ce piano, c'est pour accompagner les chants qui louent Dieu à l'EBTM. Ça, c'est son but. Et c'est pareil pour nous. Il faut plus que la science pour dire quel est le but de nos vies. La science peut dire, voilà, les molécules sont composées ainsi. Et quel est le but? Et là, le septième jour déjà indique le but. Il faut tout le reste de la Bible pour bien le creuser, bien le découvrir. Mais le septième jour nous l'indique déjà. Le but, c'est d'être en relation avec Dieu. Et c'est de vivre dans ce septième jour où tout est bien, tout est ensemble, tout est paix, tout est repos. Dieu, avec sa création avec Dieu. Tout reposer en lui. Et quand on poursuit ce but de nos vies, c'est là où on découvre ce que c'est la bénédiction. En fait, c'est la seule manière d'être vraiment béni, d'être vraiment sanctifié, c'est d'entrer dans ce but qui est la communion avec Dieu dans le repos, dans la paix. Donc, le septième jour nous montre le but de tout, c'est impressionnant. Et le septième jour, ensuite, devient un modèle pour nos vies. J'aimerais creuser ça avec vous. Un modèle de plusieurs choses. Tout d'abord, un modèle du culte juif qui va quand même régir une bonne partie de l'Ancien Testament avant la venue de Jésus-Christ. Ensuite, un modèle d'activité humaine et enfin un modèle du salut en Christ. D'abord, le septième jour devient un modèle pour régir le culte juif que Moïse, il écrit ses livres pour léguer à son peuple qui vont entrer dans le pays promis et commencer à vivre une relation avec Dieu selon les lois de Moïse, selon un culte juif. C'est vrai que ce texte en Genèse 2 n'impose pour l'instant rien à l'homme. Il n'y a pas un commandement pour l'homme qui dit tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça décrit ce qui est Dieu a fait à la fin de sa création pour commencer à nous indiquer le but de toute chose. Le sabbat juif, avec pas mal de règles, de prescriptions, c'est plus tard, c'est plus tard avec Moïse. Mais la loi de Moïse va beaucoup s'appuyer sur ce jour, même sur ce récit de la création, pour mettre en place le sabbat. Et il faut savoir que l'ensemble du culte juif, beaucoup d'aspects du culte juif est tourné autour du sabbat. C'est le quatrième des fameux 10 commandements de souvenir du jour du sabbat. Et puis, cette semaine de création devient un modèle donc pour le septième jour, que les Juifs ils devaient cesser de travailler. Mais aussi, il y avait d'autres fêtes juives, notamment le septième mois. C'était un sabbat, ce jour des expiations. Et puis, la septième année, il y avait une année sabbatique, il fallait reposer les terres. Et puis, il y avait même cette fois, septième année, l'année jubilée. C'était un sabbat, un grand sabbat tous les 50 ans. Donc, chaque semaine, le septième jour, septième mois, septième année. Et cette fois, septième année, c'était inculqué dans le culte juif. Chaque fois, pour les ramener à Dieu, pour les, en quelque sorte, ramener à Éden, à l'état d'une relation parfaite avec Dieu, pour souvenir que voilà, nous l'avons perdu par le péché, mais nous aspirons à revenir. C'est ce rappel constant que vous devez revenir au but premier de la vie, qui est de trouver la paix et le repos en Dieu. Je ne vais pas m'attarder plus que sur le culte juif. Nous ne sommes plus soumis à la loi de Moïse, aux prescriptions juives. Ces choses pointaient vers une réalité plus grande qui était en Christ. Et donc, les chrétiens ne sont pas régis par les lois du sabbat. Mais déjà, ce texte commence à donner une théologie du sabbat. Et c'est pour ça que Moïse va aussi agencer le récit de la création de cette manière pour aider les Juifs plus tard à comprendre les commandements que Dieu leur donne. Mais plus pratique pour nous, peut-être, c'est de le voir comme aussi une activité, un modèle d'activité humaine. Vous vous souvenez, le sixième jour, donc là on est septième jour, mais le sixième jour, nous avons appris que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Vincent a creusé un peu ça. Et qu'est-ce que c'est d'être fait à l'image de Dieu? Et cela signifie, je pense, beaucoup de choses. Il y a une richesse biblique dans cette vérité que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Ça lui donne une dignité, ça lui donne une valeur, ça lui donne une importance comme rien d'autre monde. Donc cela signifie beaucoup de choses. Mais dans la semaine de création, justement, nous avons une des premières choses que l'homme va imager, que l'homme va imiter chez Dieu, c'est dans cette manière d'avoir une activité suivie par du repos. Dans nos activités professionnelles, vocationnelles, entre autres, nous vivons déjà à l'image de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a créés à son image. Dieu était créateur, Dieu était artiste, Dieu était travailleur cette première semaine. Donc, nous aussi, à l'image de Dieu, nous sommes des travailleurs, nous sommes des créateurs de solutions, nous sommes appelés à agencer ce monde pour le rendre meilleur, nous sommes appelés à produire de la beauté, de l'utilité, nous sommes appelés à mettre de l'ordre dans ce qui est désordre, Ça, c'est ce que nous faisons une grande partie de notre vie et qui nous donne aussi une certaine satisfaction. Et voilà, qui vous allez passer la plupart de vos heures réveillées dans une activité productive et là, ou en tout cas souvent vous trouvez plaisir dans votre travail, c'est quand vous imitez Dieu qui est créateur de solutions, qui met de la beauté, qui met de la créativité dans ce qu'il fait. Donc déjà, nous vivons à son image lorsque nous travaillons, et lorsque nous produisons, et lorsque nous agissons, et lorsque nous sommes artistes. Mais aussi, à son image, nous nous reposons, nous avons des temps de repos. On passe, et ces temps de pause, on les met à profit lorsqu'on passe du temps avec Dieu, lorsqu'on se souvient qu'il est notre créateur, lorsqu'on le remercie pour ce qu'il a fait dans nos vies. Donc ça montre, cette semaine aussi montre, nous donne un modèle d'activité humaine et nous montre que le travail est bien, le travail noble, mais le travail n'est pas la valeur ultime de l'homme. Le travail n'est pas notre identité ultime puisque le septième jour, on se repose, on est en Dieu, on pense à lui. On arrête le travail en quelque sorte pour rappeler qu'encore plus important que le travail, c'est Dieu et sa place dans notre vie. Et ça, c'est intéressant parce que vous savez, Karl Marx et le marxisme dit la grande devise, c'était le travail, c'est l'essence de l'homme. C'est le travail qui donne, qui explique tout. Le travail est l'essence de l'homme, disait Karl Marx. Et le récit biblique nous corrige ça, disait non, c'est pas le travail qui est l'essence de l'homme. Nous avons déjà dit, l'essence de l'homme, c'est de vivre en relation avec Dieu. De se reposer en Dieu. C'est ça l'essence de l'homme. Et donc, ça vous aide dans le quotidien à équilibrer. Si, est-ce que je vis uniquement pour le travail? Est-ce que le travail est ce qui me donne toute ma valeur? Eh bien, il a pris trop de place. Ou, inversement, si on néglige le travail, on maîtrise le travail, la paresse s'installe, là, on revient, on dit non, Dieu, et c'est quelque chose, une activité noble pendant une bonne partie de la semaine. Je vous cite encore Henri Blocher, le septième jour relativise les œuvres de l'homme, le contenu des six jours ouvrables, il protège l'homme de l'absorption par la tâche d'assujettir la terre, il signale à l'homme qu'il n'accomplira pas son humanité dans la relation au monde, mais quand on lèvera les yeux en haut. C'est beau ça, de ce septième jour relativise les œuvres de l'homme. Il protège l'homme d'être trop absorbé par cette tâche d'assujettir la terre. Il nous rappelle que voilà, la relation la plus importante, c'est celle avec Dieu. Et puis ces temps de repos, comme le peuple juif devait apprendre avec tous ces sabbats, ces temps de repos où on cesse certaines activités, c'est l'occasion de faire confiance à Dieu. Le peuple juif devait un jour par semaine, arrêter de travailler. Une année, tous les 7 ans, il devait plus travailler la terre. Donc il y a une valeur agricole de laisser la terre en jachère. Mais au-delà de ça, c'était l'occasion de placer sa foi, sa confiance en Dieu qui allait pouvoir, même cette année où on ne pratiquait pas les récoltes, on pouvait croire que Dieu allait pourvoir nos besoins et être fidèle à ses promesses. Donc, vivre le repos, pratiquer le repos, c'est de pouvoir dire, voilà, je ne suis pas moi le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Donc, je peux me reposer. Je peux faire un break, je peux faire une pause. J'ai pas besoin, parce que Dieu prend soin de moi. Je ne suis pas moi le maître de la moisson. Souvent, on se croit nous-mêmes le maître de la moisson, mais c'est Dieu, c'est Jésus qui est maître de la moisson. Et je dirais que ces principes-là, déjà, qui sont présents dans la première semaine de la création, et qui sont renforcés par le culte des sabbats, et ça, ces principes-là nous aident à faire des choix dans notre vie, des choix très concrets, très pratiques. Quand il faut choisir un planning, quand il faut choisir un métier, quand il faut choisir des habitudes, quand il faut choisir un rythme de sommeil, quand il faut choisir à quelle heure on se couche samedi soir, là, on se pose la question, qu'est-ce qui favorise quand même un temps avec Dieu? Qu'est-ce qui favorise une relation avec Dieu? Qu'est-ce qui favorise une vie d'église où je peux, comme disait Nicolas, des fois prendre un temps de pause dans mon activité normale, quotidienne, professionnelle, et le consacrer à rappeler que le but de la vie, c'est la communion avec Dieu ensemble avec d'autres personnes. Qu'est-ce qui favorise des temps de ressourcement spirituel? Voilà déjà ce que nous indique ce septième jour. Donc oui, c'est un modèle du culte juif, pas les sabbats, et les juifs vont pouvoir regarder la semaine de la création pour trouver une justification dans les lois des sabbats, mais au-delà de ça, il y a des principes de vie normale où on installe des temps de repos pour rappeler que le travail n'est pas la valeur ultime de nos vies. Et enfin, c'est comme là le grand message de la Bible, ce septième jour devient un modèle du salut en Jésus-Christ, de l'offre de l'Évangile, qui fait que nous pouvons passer l'éternité avec Dieu et pas loin de lui. Il faut savoir, et c'est là que je trouve beau, c'est que Dieu a tissé le plan du salut. Ce plan qui va être développé dans toute la Bible, il a tissé le plan du salut dans la semaine de la création. Vous savez, des artistes, les bons artistes, ils savent des fois dessiner des images à double sens. Quelques exemples. Bon, là, il y a deux exemples. Le premier, le titre est pas gentil, c'est « Ma femme et ma belle-mère ». Bon, mais je sais pas si vous voyez, vous connaissez, je pense. Mais il faut trouver les... J'espère que vous voyez les deux femmes. Dans cette ligne, il y a une vieille femme et une jeune femme. Donc, je vous laisse chercher. Vous voyez la vieille femme, donc la vieille femme, le montant, la bouche. Mais la jeune femme, elle regarde en arrière. Ça, c'est son collier, son oreille. Et voilà. Intéressant. Ou celle-là est peut-être plus gentille. Hein. C'est à la fois, c'est juste des fleurs, hein, mais... De loin, vous voyez bien que c'est le visage d'une femme. Encore un exemple. Peut-être il faut couper les lumières. Un panier de fruits. Ça, c'est un artiste italien de la avant-Renaissance, hein, 1500. Un simple panier de fruits, joli. Ben, les artistes savent toujours dessiner des paniers de fruits, bien sûr. Mais, vous le retournez à la même image, c'est une tête. Voilà, donc les artistes savent dessiner des images à double sens, ce qui nous fait réfléchir un peu. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait. C'est toute la beauté de ce récit. Non seulement il raconte la création, mais Dieu a fait d'une manière qui modèle son grand plan de salut en Christ qui nous offre encore ce matin. Parce que, vous voyez, le premier chapitre de Genèse raconte comment Dieu a transformé le néant et le chaos dans quelque chose de béni et de sanctifié. On avait commencé quelque chose de vide et informe, premier verset de la Bible. Et puis maintenant, Dieu bénit ce jour et il dit qu'il s'est béni, s'est sanctifié. Donc il transforme quelque chose qui est du néant et du chaos en quelque chose de béni et de sanctifié. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire pour la première génération qui lit ces paroles, la génération de Moïse, qui vit l'Exode, qui quitte l'Égypte pour aller vers le pays promis. C'est ce qu'ils vont vivre. L'Égypte, c'est un peu chaotique et ils sont dans les ténèbres. Et puis Dieu les sort de là, il les conduit vers un pays promis, un pays reposant, un pays de lumière. Et donc, déjà cette première semaine, ils vont laisser les œuvres d'esclavage en Égypte pour trouver le repos du pays promis. Mais la Bible dit que ça va plus loin que ça. C'est pas juste le schéma aussi que le peuple juif va vivre à l'Exode. C'est ce que Dieu fait dans nos vies, c'est ce que Dieu nous offre encore ce matin. Il nous conduit du chaos, des vies un peu chaotiques, des vies fatiguées, vers quelque chose de béni, quelque chose de reposant. Mais ça passe, de notre côté, ça passe aussi par une cessation d'activité, d'œuvre. Ça passe par un arrêt d'œuvrer. Et le Nouveau Testament nous montre ça. Il y a un chapitre dans le Nouveau Testament qui prend ce thème du repos et des œuvres qui l'utilise pour expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En Hébreux chapitre 4, l'auteur dit, oui, la Bible parle quelque part ainsi du septième jour, où Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et puis il poursuit, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, c'est là où il faut un peu apprendre à voir le double image, comme dans ce que je vous ai montré. Mais il y a Dieu qui est œuvré puis qui s'est reposé de ses œuvres. Eh bien, Hébreux dit que c'est aussi ce que nous devons apprendre à faire pour connaître Jésus, pour entrer dans le salut, pour découvrir la foi chrétienne. Selon la foi chrétienne, et ça c'est ce qui la distingue de toutes les religions du monde, selon la foi chrétienne, on cesse, on arrête nos œuvres, nos efforts pour mériter le paradis. On arrête de créer nos propres solutions pour plaire à Dieu. On arrête de se fatiguer dans des œuvres d'une religion, dans les rites d'une religion, dont on ne sait jamais si c'est suffisant, si c'est assez, on ne peut jamais dire c'est achevé. Et on arrête ces œuvres-là et on se repose en Christ, dans ce qu'il a fait pour nous à la croix, celui qui a œuvré à notre place. Ça, c'est la foi chrétienne. On arrête d'œuvrer pour mériter le salut et on se repose dans ce que Jésus a déjà fait. D'ailleurs, même là, c'est les événements de la croix se sont calqués sur cette semaine aussi. Jésus est mort le sixième jour. Il s'est reposé dans le tombeau le septième jour. Et puis, il est ressuscité le premier jour d'une nouvelle semaine, le huitième jour, pour lancer comme une nouvelle création, comme une nouvelle vie. Donc, vous voyez Dieu l'artiste qui prépare tout ça. La semaine de la création, même avant que le péché n'arrive dans le monde, il prévoit déjà de nous aider à comprendre son amour pour nous et son offre d'un repos éternel. C'est pour ça que le Nouveau Testament dirait que le vrai sabbat est en Christ. Vous n'avez pas besoin d'appliquer, d'obéir les lois juives sur le sabbat. Quand vous trouvez le vrai sabbat, le vrai repos en Christ. Et en fait, c'est vrai, quand Jésus devient votre sauveur, quand il devient votre justice, quand il devient votre identité, eh bien, vous pouvez enfin dire, ça y est, ma vie est complète. On ne retouche plus rien. Ma vie est achevée. Voilà, j'atteins le but de ma vie. Mais tant qu'on n'a pas Christ, on va toujours se fatiguer à dire, oui, c'est pas encore parfait, c'est pas encore tout aussi beau qu'il devrait être. Je dois encore faire des choses. Mais en Christ, on peut dire, ça y est, rien à retoucher. Et ça, vous savez, c'est très reposant pour notre conscience. Parce que notre conscience dit souvent, t'as pas fait assez. Pensez à ce qui vous fatigue le plus dans la vie. Parfois, oui, il faut revoir l'équilibre entre le travail et le repos physique. Parfois, il faut faire plus de sport. Parfois, il faut gaspiller un peu moins de temps devant les écrans et se coucher plus tôt. Mais souvent, ce qui nous fatigue encore plus, c'est pas tant le sommeil physique. C'est cette voix dans notre conscience qui dit, mais t'as fait assez, ou les inquiétudes quant à l'avenir, ou un sentiment de culpabilité. Je crois en ce moment, je qualifie avec ma famille de moment fatigant. Surtout Rebecca, mon épouse encore plus, avec ce neuvième enfant qui vient de naître. Des fois, la vie est fatigante en tant que parent, vous le savez. La vie est fatigante en tant que professionnel. La vie est fatigante en tant qu'étudiant. La vie est fatigante pour beaucoup d'entre nous. On commence la rentrée. Je suis sûr que tout le monde est parfaitement reposé pour être parfaitement d'attaque. Mais non, rapidement, on va se demander comment vas-tu et la réponse, fatigué. Je suis fatigué. Mais je reconnais que même avec les enfants, avec une famille nombreuse, avec un accouchement, des fois ce qui fatigue le plus, c'est pas tant la physique, c'est ces questions-là. Suis-je un assez bon père? Suis-je un assez bon mari? Suis-je un assez bon pasteur? Suis-je un assez bon vous mettez ce que vous voulez, mais et c'est ça qui des fois tourmente la conscience et nous empêche d'être vraiment reposés. Mais Le message de la Bible qu'on voit déjà dans la première semaine de la création, c'est que Dieu offre ce repos. Il offre une perfection sur notre vie en Jésus-Christ, et quelque chose de parfaitement achevé. Il le fait de vos vies en Christ, et nous pouvons encore ce matin dire oui. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. Mon fardeau n'est plus, mes péchés sont plus. Je suis reposé en Christ et je vais toucher pour l'éternité ce repos de Dieu, ce repos du septième jour qu'il nous offre à nous tous ce matin. Que vous puissiez commencer cette rentrée fort de ce repos-là, et après vous serez prêts à tout affronter. Prions pour terminer. Seigneur, nous te remercions de toi, l'artiste, le créateur, qui non seulement a créé un beau monde, mais tu l'as fait de manière parlante, de manière pédagogique. Et ce matin, ce septième jour, où tu t'es reposé, où tu as pu voir toute ta création, dire voilà, c'est parfait, on n'a plus besoin de rien ajouter. Et bien, tu fais pareil de nos vies. Tu nous offres un repos de l'âme, un repos éternel, un repos spirituel, où notre conscience est enfin tranquille, où tu nous vois parfaits à travers Jésus-Christ. Et ce matin, nous te remercions, nous te prions que cela nous permet de partir avec la force et l'énergie pour accomplir la tâche que tu as réservée à chacun. Nous te remercions pour la vocation professionnelle que tu adresses à chacun de nous. Nous voulons l'accomplir avec fidélité. Il peut y avoir des semaines fatigantes. Nous voulons faire de notre mieux, de travailler comme à ta gloire, parce que tu es un Dieu travailleur, un Dieu producteur, mais toujours en nous rappelant que notre relation avec toi est la chose la plus importante. Et nous te remercions pour ce culte ce matin qui a pu nous aider à progresser dans cette relation. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore ce repos de l'âme, je prie qu'ils entendent la voix de Christ encore ce matin. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.